libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Comme tous les lundis avec Luc Ferry, Luc, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, qui souhaitait justement que dans toutes les classes, en tout cas dans la mesure du possible, on projette le soldat Ryan. Demain, le président de la République va sur les plages du débarquement. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ce 6 juin n'a pas été véritablement commémoré. Mon cher Luc, bonjour. Je me souviens de cette initiative que vous souhaitiez. Il faut se souvenir que...
Allô.
Oui, Luc, vous m'entendez ?
Ouais, je suis en 4G là parce que ça a coupé tout à l'heure.
Mais oui, je sais. Je sais aussi que vous avez un petit problème au genou.
En tout cas, j'ai 4 barrettes en 4G, donc ça devrait marcher.
Voilà. Ben écoutez, mon cher Luc, revenons justement à cette affaire de 6 juin. Je me souviens, je le disais, que lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vous aviez beaucoup fait, notamment pour qu'on projette dans les classes le film de Spielberg, Le Soldat Ryan. Demain, le président de la République va sur les plages du débarquement. Pourquoi, pour vous, c'est important? Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, la Ve République n'a pas commémoré ce débarquement vraiment.
Non, parce que curieusement, il y avait un intérêt beaucoup plus grand pour la guerre de 14, figurez-vous. Et donc, notamment chez les élèves, il y avait une vraie passion pour, peut-être pas à cause de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, il y avait une vraie passion pour la guerre de 14, un vrai intérêt pour la guerre de 14, et pas du tout pour la guerre en tant que telle de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, ce qui les intéressait, c'était la question du nazisme, la question d'Auschwitz, la question de l'antisémitisme. Ça, et c'est pourquoi j'avais diffusé la Shoah. Et donc, on avait fait une version courte de Shoah, parce que c'était impossible de diffuser dans les classes la totalité du film. Mm-hmm. Mais voilà, on avait fait exprès, avec l'accord évidemment du réalisateur.
Lanzmann, oui.
Voilà, exactement. On avait fait une version courte. Et ça, évidemment, ça rencontrait un très grand intérêt dans les classes. Et j'avais fait pour les élèves musulmans une diffusion de l'engagement des musulmans pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans la mosquée de Paris. Et ça aussi, ça avait un très grand succès. Mais vous avez raison, le débarquement, non, ça passait pas.
Je vous donnais les chiffres tout à l'heure. Il y a 1 500 000 soldats américains qui étaient stationnés en Grande-Bretagne. Le commando Kieffer pour les Français, beaucoup moins nombreux, mais qui ont été d'une vaillance absolument extraordinaire, avec un entraînement d'une violence en Angleterre du côté de l'Écosse, qui en a fait évidemment des héros de guerre. 287 000 personnes ont embarqué à bord des navires, il y en a 132 000 qui ont débarqué à minuit, et il y avait 40 000 soldats allemands, donc en face sur le site. Je sais que pour votre génération et pour vous-même, tout ça a été très important.
Oui, ma mère, qui devait avoir 15-16 ans, allait à 3h du matin avec le directeur de l'hôpital dont elle était amie. Elle allait sauver les aviateurs anglais qui s'étaient crachés dans les forêts. Et elle allait récupérer ces soldats avant que les Allemands ne les tuent ou ne les fassent prisonniers. Donc oui, c'est pour moi. Et puis mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Donc pour moi, évidemment, c'est une histoire qui reste extrêmement proche. Ouais.
Question concernant un tout autre sujet. Vous avez donné dans le Figaro un article sur l'intelligence artificielle, mon cher Luc, en disant qu'il fallait rester dans le domaine du progressisme et que tout ça allait se réguler et que c'était très important pour la société. Or, vous avez vu cette tribune il y a quelques mois pour un moratoire de 6 ans, mais alors il y a maintenant, c'est carrément les patrons qui en rajoutent. Elon Musk, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, des membres du laboratoire d'IA de Google, DeepMind, le patron de Stability, qui est le concurrent donc d'OpenAI, et des ingénieurs,
oui,
vous avez vu ça comme moi, etc.
Oui.
Et ils disent il faut arrêter, autrement l'intelligence artificielle, donc ils vont un cran au-dessus, va finir par concurrencer l'humanité. Est-ce que je peux avoir sur ce sujet votre point de vue, car vous avez beaucoup...
C'est une vaste blague. L'enjeu de ces moratoires, c'est d'empêcher les autres de rentrer, parce que c'est un ticket d'entrée à 1 000 milliards de dollars. Et donc, il s'agit d'empêcher les autres de rentrer, mais évidemment, comme vous pouvez imaginer, que ce soit Elon Musk ou que ce soit Sam Altman qui ont signé ces moratoires, ces pétitions pour ralentir la recherche, est-ce que vous croyez que Elon Musk va dire à ses troupes, prenez des vacances et surtout arrêtez de travailler? C'est une blague. La vérité, c'est qu'il continue à travailler plus que jamais, parce que la compétition est férocissime. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut une régulation. Donc, ce dont s'occupe Thierry Breton au niveau européen, puisqu'il va y avoir un IA Act, comme on dit en mauvais français, mais enfin, il va y avoir une régulation, une mise en place de principes de régulation pour l'intelligence artificielle. Et à mon avis, il y a une une vraie urgence, notamment sur ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire les vidéos qui vous mettent en scène, qui sont absolument indétectables pour le grand public, où on vous voit en train de parler, raconter n'importe quoi. On voit Guillaume Durand en train de dire je sais pas quoi à Obama ou à Poutine. Et c'est impossible pour un spectateur de voir qu'il s'agit d'un faux. Ouais. Donc on peut ruiner la réputation de quelqu'un. Il y a eu par exemple des vidéos de films pornographiques avec des acteurs célèbres qui n'avaient jamais fait de films pornographiques. Il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des vidéos d'Obama et de Biden parlant à Poutine alors que c'était des fausses vidéos. Et donc ça, c'est très très dangereux. Donc je pense que alors le problème, c'est que l'Union européenne a commencé son travail avant l'apparition des IA génératives, c'est-à-dire avant l'apparition de ChatGPT. Donc ils sont obligés aujourd'hui de continuer le travail et de corriger le tir parce que c'est un problème tout à fait nouveau, parce que ChatGPT passe le test de Turing, c'est-à-dire que quand vous parlez avec ChatGPT, quand vous lui posez des questions, vous ne pouvez pas savoir que vous parlez avec une machine, vous pensez que vous parlez avec un humain. Donc il y a quelque chose d'absolument nouveau dans ces IA génératifs, que ce soit Midjourney par exemple ou DALL-E qui produisent des images absolument incroyables, ou que ce soit ChatGPT qui produit des textes absolument incroyables. Et d'ailleurs, il y a un petit livre qui vient de sortir aussi, qui est fait avec ChatGPT aux éditions de l'Observatoire, qui est extrêmement intéressant. Je vous en parlerai la semaine prochaine, parce qu'il donne une cinquantaine d'exemples de ce que ChatGPT est capable de faire en quelques secondes. Mm-hmm. Voilà. Donc là, il y a un besoin de régulation sur les deepfakes et aussi sur le pompage de données, qui est quand même un vrai sujet, sans parler du contrôle social qui peut se mettre en place dans des pays totalitaires. Donc il y a un vrai grand sujet. Mais le moratoire est une blague, évidemment. Personne de sérieux ne peut croire une seconde que ces oligopoles qui sont en concurrence les uns avec les autres vont s'arrêter de travailler. C'est pas vrai. C'est juste pour empêcher les autres de rentrer dans le circuit.
Dernier sujet, Luc, demain il y a la manifestation, peut-être la dernière, concernant justement la réforme des retraites, et puis après il y a une énième possibilité d'examiner le projet de loi Liot, mais si ça se trouve, c'est même probable, ça n'aura pas lieu. Le pronostic de Jérôme Fourquet, que vous connaissez et que vous appréciez, c'est de dire, à partir du moment où tout ça va s'arrêter, il y a une chose qui ne s'arrêtera pas, c'est la violence dans les rapports sociaux, mais, dit-il, dans tous les rapports sociaux, c'est-à-dire ce qui s'est passé, qui va être jugé aujourd'hui avec la famille de Madame Macron, mais aussi sur les stades de foot, aussi dans des histoires familiales où on a maintenant des faits divers qui sont de plus en plus atroces, et dans beaucoup de manifestations sociales où des maires, des députés et des élus de toutes les catégories sont agressés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse de Fourquet ?
Non, pas oui et non. Non, parce que si vous comparez avec les années 30, la violence d'aujourd'hui est des milliers de fois inférieure à celle des années 30, quand Hitler et Staline dominaient le monde et que des dizaines de millions de personnes allaient perdre la vie. Donc on peut absolument pas comparer la violence d'aujourd'hui avec celle des années 30. Donc il y a une illusion d'optique. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la société française, c'est pas le cas en Allemagne par exemple, c'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas en Angleterre, la société française est très déchirée et il y a une responsabilité des politiques dans cette déchirure. Si on avait un système comme en Allemagne, vous savez que c'est mon dada, qui obligeait les politiques à se réconcilier, si je puis dire, avoir un gouvernement d'union nationale après s'être mis d'accord sur un programme. Bon, quand le chancelier allemand se met d'accord avec deux autres partis, il représente 70% des Allemands. Emmanuel Macron représente positivement 8 millions d'électeurs, alors qu'il y a 47 millions d'électeurs en France. Et donc, quand la France a un système politique qui est déchiré en 6 partis qui s'opposent, qui se déchirent entre eux, le peuple lui-même, et comme les partis politiques, il se déchire lui aussi. Et chacun est dans une opposition, à la limite, au sein même des familles. Et donc, je pense que si on était dans un système politique qui permet une union nationale, donc un système avec la proportionnelle, cette déchirure de la société, ou ces déchirures de la société française, seraient beaucoup moins visibles et beaucoup moins violentes. Voilà. Donc, encore une fois, oui, évidemment, Jérôme Fourquet a raison. Il y a de la déchirure dans la société française, mais c'est absolument pas comparable avec la violence des années 30, avec ce qu'on a appelé d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, ce que les historiens avaient appelé, vous le savez, la brutalisation. Bon, entre les deux guerres, on vit une période qui est absolument terrifiante sur la question de la violence. C'est pas le cas aujourd'hui, mais néanmoins, ces déchirures du système politique font que les Français se déchirent entre eux et que tout devient extrêmement agressif dans quel que soit le débat public, hein, que vous parliez du réchauffement climatique ou de telle ou telle question religieuse, tout devient radioactif aujourd'hui, et là-dessus c'est tout à fait vrai. Oui.
Merci Luc, ne bougez pas une seconde, j'ai une dernière question à vous poser, merci d'avoir été en direct au téléphone dans des conditions un peu compliquées, car je vous rappelle que vous êtes un peu blessé au genou. Si sur ce thème de la violence, il y a un livre à lire, disons relativement simple pour au fond instruire d'une manière pédagogique ceux qui nous écoutent et qui vous aiment bien sur Radio Classique tous les lundis.
Écoutez, il y a beaucoup de livres sur la violence des masses, mais ce sont des livres difficiles. Il y a des livres de Théodore Adorno, par exemple. Non, mais lisez ou relisez, parce que dans Chose vue, par exemple, de Victor Hugo, moi j'aime bien les anciens, et puis en plus Victor Hugo, c'est toujours...
Sur la révolution de 48.
Lisez par exemple 93, la violence révolutionnaire et tous les textes de Victor Hugo sur la différence entre le peuple et la foule et la violence de la foule. Et ça, je pense que c'est vraiment des textes qui sont des matrices pour la réflexion sur la violence des foules, comme dit Victor Hugo, des masses, comme dira Adorno, par rapport au peuple qui reste l'électorat, si je puis dire, raisonnable, responsable, comme on dit. Voilà. Et donc, lisez 93 de Victor Hugo, voilà, c'est cette violence révolutionnaire, la France n'en est jamais tout à fait sortie. Donc, moi, c'est ça que j'aime toujours. En plus, le style est merveilleux, donc ça fait jamais de mal de lire Victor Hugo.
Absolument. Et donc, chose vue sur la révolution de 1848, où Victor Hugo est comme une sorte de journaliste et raconte ce qui se passe.
Exactement.
Pendant cette révolution,
ces jours. Et sur la terreur, voilà, et sur les colonnes.
Merci Luc d'avoir été ce matin dans les conditions difficiles, mais on vous écoute toujours avec intérêt. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, le journal de 9h, c'est Augustin Lefebvre, et la météo, il va faire très très chaud.